Merci d'écouter RFI Midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris. C'est l'heure du journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une de ce journal, François Bayrou nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. L'information est officielle depuis quelques minutes. Le dirigeant centriste était en entretien ce matin à l'Élysée avec le président. On y revient dès le début de ce journal. En Syrie, un appel a fêté la victoire de la révolution aujourd'hui par le chef de la coalition rebelle, Al-Jolani. Appel entendu par des milliers de Syriens. Ils ont convergé vers la mosquée des Omeyyades à Damas. Dans l'actualité également, en Haïti, une prise de parole du Premier ministre scrutée de près. La sécurité semble au cœur des préoccupations, alors que depuis le week-end dernier, des massacres commis par des gangs armés se multiplient. Et puis l'Ukraine, visée par une attaque russe massive contre ses infrastructures énergétiques. En France, le nom du nouveau Premier ministre vient de tomber et c'est François Bayrou. Ça vient d'être annoncé. Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Le successeur de Michel Barnier est donc désormais connu.
Et oui, et finalement, c'est donc François Bayrou. Emmanuel Macron a nommé son meilleur allié, celui qui lui avait permis d'être élu en 2017. En renonçant à être lui-même candidat et qui depuis lui a apporté son soutien et celui de son parti, le Modem. C'est le favori dont le nom revenait depuis des jours, mais qui semblait depuis hier mis sur la sellette, qui a finalement emporté la mise après un rendez-vous d'1h45 à l'Élysée ce matin. Et c'est sûrement là que tout s'est joué. Car hier, dans le camp du maire de Pau, les mines étaient un peu déconfites. Le temps qui passait, l'annonce qui ne tombait pas, insinuait le doute, même si François Bayrou cochait sur le papier beaucoup de cases pour être l'homme de la situation. Centriste qui pouvait dialoguer avec la gauche, il avait même voté Hollande en 2012. Côté LR, le temps avait coulé et son opposition frontale avec Nicolas Sarkozy était un peu oubliée. Il pouvait apparaître préférable à un Premier ministre de gauche. Dans la Macronie, il n'y avait pas eu de tir de barrage contre lui. Et le RN pouvait aussi l'accepter car il a toujours défendu l'idée qu'il devait être représenté à la hauteur de ses électeurs. Cette nomination que beaucoup trouvaient donc logique, c'est néanmoins négocié dans la douleur. Emmanuel Macron a visiblement hésité et cherché d'autres solutions jusqu'au dernier moment. Sachant qu'il y avait quand même un risque politique à ne pas nommer François Bayrou après lui avoir fait miroiter Matignon, au point que le centriste avait commencé à préparer un gouvernement. Dans son entourage, on estimait que c'était son moment et qu'un retour en arrière serait une humiliation. François Bayrou n'a pas lâché, il est désormais Premier ministre.
Merci pour vos précisions, Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Et on va retrouver aussi Victorien Villaume en direct devant Matignon. Bonjour Victorien.
Bonjour Juliette, bonjour tout le monde.
Vous êtes donc devant Matignon où aura lieu la passation de pouvoir.
Oui, et où tout est prêt, hein, et tout est prêt depuis à peu près 2h, 2h30 même, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure dans la matinée, le tapis rouge est prêt, il y a également les micros qui ont été installés par les techniciens, et puis Michel Barnier, le Premier ministre démissionnaire, hein, qui va donc laisser sa place à François Bayrou, est également présent à l'intérieur de Matignon depuis assez tôt ce matin, 8h, a-t-on appris, aux côtés de ses équipes. Nous sommes une quarantaine de journalistes présents en face de l'hôtel Matignon, à l'extérieur donc de Matignon. Et pour l'instant, nous n'avons pas l'autorisation. Nous ne sommes pas invités à rentrer, mais cela ne devrait pas tarder, puisque François Bayrou, donc celui qui a été nommé Premier ministre, va sans doute arriver prochainement devant les journalistes avec son véhicule pour rentrer à l'intérieur de l'hôtel Matignon. On va évidemment vous raconter ça.
Les précisions de Victorien Villaume en direct devant Matignon. Merci beaucoup.
RFI Midi. En Syrie, 6 jours après la chute de Bachar al-Assad, un appel a fêté la victoire de la révolution aujourd'hui.
Oui, un appel formulé par le chef de la coalition armée, Abou Mohammad al-Jolani. Al-Jolani qui a donc pris le pouvoir à Damas après une offensive de 11 jours menée par des rebelles, issus notamment du groupe islamiste sunnite radical Hayat Tahrir al-Sham. On va retrouver notre envoyé spécial Muriel Paradon à Damas. Muriel, il semble que l'appel a été entendu et il y a du monde.
Oui, des dizaines de milliers de personnes sont réunies place des Omeyyades en plein centre de Damas et la population continue d'affluer. Une foule immense crie des slogans « Bachar al-Assad est tombé et Dieu est le plus grand ». Nous avons parlé à de jeunes étudiantes, visages peints aux couleurs de la révolution, très enthousiastes. L'une d'entre elles, âgée de 22 ans, nous disait, émue, que c'était la première fois qu'elle s'exprimait librement dans la rue. Une autre, qu'elle espérait que Bachar el-Assad serait traduit en justice pour les crimes qu'il a commis. Toutes espèrent un avenir meilleur dans le pays, mais aussi pouvoir voyager à l'étranger. Nous avons également pu parler avec une brigade de Hayat Tahrir al-Sham, une des composantes des rebelles qui ont pris le pouvoir. Ces hommes lourdement armés, visage à moitié masqué, nous ont souhaité la bienvenue, multipliant les messages rassurants à destination de l'étranger. Ils assurent la sécurité de la manifestation en ce moment, craignant, disent-ils, des infiltrations d'éléments pro-Bachar ou de ses alliés iraniens et russes. Pour l'instant, le rassemblement se déroule dans une ambiance calme et il devrait durer plusieurs heures.
Muriel Paradon à Damas. RFI, il est 7h05 à Port-au-Prince en Haïti. Sécurité, relance économique et élections, c'est ce qu'a promis hier le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à l'occasion de sa première prise de parole devant les journalistes depuis sa nomination donc le mois dernier. Pour en parler avec nous, Christophe Paget du service international est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
La question centrale pour le Premier ministre, c'est surtout la sécurité, puisque depuis le week-end dernier, notamment, des massacres commis par les gangs armés se multiplient.
C'est inacceptable que des citoyens sans défense soient attaqués par des malfrats. Alix Didier Fils-Aimé a présenté ses condoléances aux victimes des massacres de Wharf Jérémy, 184 morts, et à celle de Petite Rivière, une vingtaine de personnes tuées. Le Premier ministre a insisté, il travaille avec acharnement sur la sécurité, mais selon des témoignages recueillis par le journal Aïbo Post, il y a eu un nouveau massacre mardi et mercredi à Wharf Jérémy qui aurait fait 50 morts. Et hier, le Premier ministre n'a pas annoncé de plan sécuritaire élaboré par son équipe fraîchement nommée, mais il a voulu remercier la police pour son travail.
J'ai passé des instructions pour accorder un meilleur traitement à nos policiers, nos héros du quotidien, qui travaillent corps et âme pour assurer notre sécurité.
Le montant de la carte de débit des policiers va être doublé, de même que le salaire des employés civils de la police. Mais selon le média Radio-Télémétronome, ces mesures étaient déjà prévues dans le budget 2024-2025. Hier, le Premier ministre a aussi voulu remercier les policiers kényans déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de sécurité. Il s'est donc rendu dans une base de la MMAS, une force toujours très loin de compter les 2500 policiers promis pour appuyer la police haïtienne face aux gangs.
Les précisions de Christophe Paget, merci beaucoup. Et sur fond de guerre en Ukraine, le Kremlin dit saluer aujourd'hui la dernière déclaration de Donald Trump, le président élu américain. Le futur occupant de la Maison-Blanche s'oppose à l'emploi de missiles américains par Kiev contre le territoire russe. Joe Biden avait donné son feu vert en novembre dernier. Et en Ukraine, justement, les installations énergétiques ont été la cible ce matin d'une attaque massive de missiles russes. Déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky ce matin. La Russie a tiré 93 missiles lors de sa dernière attaque, précise-t-il. En plein hiver, Moscou bombarde ce type d'infrastructure pour provoquer des coupures de courant. Des millions d'Ukrainiens sont ainsi plongés dans le noir et le froid. Correspondance d'Emmanuel Chaz.
L'ennemi continue de terroriser une nouvelle fois le secteur énergétique et sous le coup d'une attaque d'ampleur. C'est avec ces mots que le ministre de l'énergie ukrainien, Herman Halushenko, a commenté cette nouvelle frappe russe sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Sur les 93 missiles lancés, 80 ont été interceptés et 191 drones sur 193 l'ont été également ou déviés de leur cible, précise la défense antiaérienne. S'il n'y a pas eu de mort selon Kiev, le secteur énergétique, notamment dans l'ouest du pays, est lourdement touché, alors que l'hiver s'installe en Ukraine. Même si tous les acteurs du secteur énergétique s'attellent aux réparations, l'ampleur de la destruction de ces frappes et des précédentes prive des millions d'Ukrainiens d'électricité plusieurs heures par jour. Selon Volodymyr Zelensky, ces nouvelles frappes montrent que Vladimir Poutine ne souhaite négocier qu'en terrorisant des millions de personnes, dit le président ukrainien, qui appelle une nouvelle fois à un sursaut international et à une réponse de taille. Volodymyr Zelensky et son gouvernement continuent de rappeler chaque jour aux alliés de l'Ukraine que Kiev a besoin de plus de systèmes de défense antiaérienne pour se prémunir de telles frappes. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Et puis un peu d'actualité asiatique. En Corée du Sud, le président face à une nouvelle motion de destitution demain. Yoon Suk-yeol a échappé à une première tentative de destitution. C'était le 7 décembre dernier, où la plupart des députés de son parti avaient boycotté le vote. Avec cette nouvelle motion de destitution, l'opposition sud-coréenne compte sur les députés du parti au pouvoir pour se joindre à elle, faisant appel à leur responsabilité historique. historique. Le président sud-coréen, impopulaire et conservateur, avait sidéré le pays le 3 décembre en instaurant soudainement la loi martiale avant de faire marche arrière 6 heures plus tard sous la pression du Parlement et de la rue. RFI, il est 13h09 à Paris et tout de suite on retrouve Anne Cantner. On vous retrouve donc pour une édition spéciale.
Merci Juliette Pietraszewski.
Édition spéciale sur RFI.
Ça a été long, mais ça y est, au bout, au-delà même d'un délai qu'il avait lui-même fixé, Emmanuel Macron a choisi François Bayrou comme Premier ministre. Le tapis rouge est installé dans la cour de Matignon depuis le début de la matinée, mais son nom, lui, n'a été annoncé qu'il y a quelques minutes. Édition spéciale, donc jusqu'à 12h30, temps universel. Avec moi, Valérie Gasse, chef du service politique. Bonjour.
Bonjour, Anne.
Et nous sommes en ligne avec Virginie Martin, politologue, professeure-chercheuse à Kedge Business School, co-responsable du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
François Bayrou, quatrième Premier ministre en un an en France. Son nom circulait depuis la semaine dernière. Il a été longuement reçu ce matin à l'Élysée après déjà un échange téléphonique hier soir avec le président. Pourquoi est-ce que, dans ce contexte, ça a été si long, Valérie Gasse ?
L'hypothèse la plus probable, c'est que Emmanuel Macron avait sérieusement envisagé la piste de François Bayrou, qu'il avait déjà vu deux fois dans les jours qui se sont écoulés cette semaine. Ils avaient été très loin dans leurs entretiens, dans même la préparation d'un éventuel gouvernement. Mais on connaît Emmanuel Macron, il cherche toujours toutes les pistes jusqu'au dernier moment. Et c'est vrai qu'hier soir, il y avait dans l'entourage du président du MoDem, un petit doute. La veille, c'était fait, et là, on commençait à se dire, plus le temps passe, moins ça joue en faveur de François Bayrou. Et durant la journée d'hier, il n'y a pas eu d'échange entre Emmanuel Macron, qui, il est vrai, était en Pologne, et François Bayrou. Et donc là, il y a eu un moment de flottement. Et puis, dans le cours de la soirée, en effet, on a su qu'il y allait avoir un rendez-vous ce matin à l'Élysée. Les deux hommes se sont certainement parlé. Et donc, il y avait deux hypothèses. Soit c'était pour lui dire merci et au revoir, ça ne sera pas toi, soit c'était pour lui confirmer. Mais on voit que cette confirmation, elle a été très difficile, très douloureuse. 1h45 de rendez-vous, c'est quand même très long. On sent qu'il y a une négociation, allez, on peut peut-être dire bras de fer, et que le Béarnais, le maire de Pau, a vendu chèrement sa peau.
Merci, au revoir. C'était pas possible politiquement, Virginie Martin ?
C'était difficile parce qu'on le sait, hein, François Bayrou d'abord voulait ce poste, hein, c'est vraiment le Graal pour lui, et depuis plein d'années, il a fait des sacrifices dans sa carrière, et il a aussi évidemment promu, beaucoup aidé et accompagné Emmanuel Macron dès la première heure. Donc c'est un fidèle évidemment de la Macronie, c'est même un architecte conceptuel de ce qu'est ou ce que n'est pas le macronisme, donc c'est très important quand même aussi, mais là on voit bien qu'on s'éloigne de l'hypothèse où éventuellement Emmanuel Macron aurait raté les législatives dernières, serait en cohabitation. Là, on est plutôt finalement dans une complicité, mais comme ça vient d'être dit, une complicité ferme, parce que évidemment François Bayrou, qui a un tempérament assez sanguin, on le sait aussi se montrer autonome vis-à-vis du président. Il l'a critiqué à plusieurs reprises, il ne s'est jamais tout à fait privé aussi du coup de lui affirmer son autonomie, et voilà, donc c'est un personnage aussi assez complexe, et c'est peut-être aussi tout cela que Emmanuel Macron pouvait redouter. Politiquement, néanmoins, nous ne sommes même plus dans la moindre cohabitation, à part, si je puis dire, de tempérament.
Alors justement, on va peut-être revenir un petit peu sur son parcours à François Bayrou. Donc on l'a dit, c'est un allié d'Emmanuel Macron. Il fait partie, là en ce moment, son parti, le MoDem, fait partie de la coalition du président. Vous pouvez revenir un petit peu sur son parcours en politique, Valérie ?
Oui, mais c'est quand même un des cadors, hein, de la politique des dernières décennies, hein, François Bayrou. Alors il est actuellement maire de Pau, haut-commissaire au plan, fonction que lui a confiée Emmanuel Macron. Il a été député européen, il a fait un peu tous les parcours, et puis surtout il a été candidat à la présidentielle trois fois, et c'est en renonçant justement à être une nouvelle fois candidat en 2017 et en choisissant Emmanuel Macron, qui, il est vrai, portait des idées qui ressemblaient beaucoup à celles du dépassement politique. C'était aussi le créneau sur lequel François Bayrou avait travaillé pendant des années, le ni droite ni gauche. Lui, on le dit centriste, mais lui se dit central dans l'échiquier politique politique, dans l'échiquier politique français. Donc oui, c'est un de ces animaux politiques qui peut avoir des ambitions présidentielles, qui peut toujours en avoir et qui n'a jamais fermé la porte à rien, et qui en effet a choisi Emmanuel Macron et lui a apporté son soutien vraiment franc et massif. Bien sûr, ils n'ont pas forcément été d'accord sur tout, mais ce sont deux hommes qui se sont trouvés, qui s'estiment. Mais il est vrai que oui, sur le tempérament, voilà, il faut gérer le Béarnais, et Emmanuel Macron est extrêmement complexe, comme chacun l'aura compris depuis 7 ans. Et donc voilà, il y avait certainement cette réticence qui a pu jouer, comme on vient de le dire, sur cohabitation ou totale, voilà. François Bayrou, il a quand même ses idées, il n'hésitera pas à essayer de les mettre en œuvre, et puis il a une conception de la fonction de chef du gouvernement sur laquelle il ne laissera pas forcément Emmanuel Macron empiéter. Il ne sera
donc
pas
il va pas forcément il s'aligner
ne sera
sur
pas
tout.
Aussi gérable que l'on pourrait l'imaginer. C'est un allié, mais attention, François Bayrou n'est pas un macroniste. Surtout ne pas lui dire ça. Il y a deux choses à ne pas dire à François Bayrou, c'est l'appeler Bayrou et lui dire qu'il est macroniste. Donc il faut l'appeler François Bayrou, et c'est un bayrouiste. Et donc c'est voilà, et déjà avant même cette nomination cette semaine, ses lieutenants, son entourage disaient cohabitation non, co-responsabilité. Alors donc déjà on voit dans quel schéma on peut peut-être s'inscrire.
Ça
après il y a,
le
y a les intentions et il y aura la pratique. Et là, ça va être peut-être autre chose. Peut-être que François Bayrou devra faire plus d'efforts qu'il n'en a fait jusqu'à présent. Mais voilà, et surtout pour essayer de faire en sorte que ce gouvernement qu'il va composer dans un laps de temps qu'on ne connaît pas, évite cette fameuse censure. Et là, il a du boulot pour convaincre tout le monde.
Ce gouvernement, il a déjà commencé à y réfléchir, François Bayrou. Est-ce qu'on a une idée des personnalités avec lesquelles il voudrait travailler?
Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a déjà contacté des élus locaux. Voilà, c'est un maire, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a trop de centralisation, qu'il faut un peu revenir au terrain et entendre mieux les Français avec des gens qui les connaissent. Donc voilà, il a semble-t-il passé pas mal de coups de fil, il a déjà une idée de ce que peut être un gouvernement et visiblement avec potentiellement des élus locaux. Après, il y va y avoir des arbitrages politiques et il va falloir faire cohabiter dans ce gouvernement tous ceux qui voudront bien y entrer, et ça va pas être simple, mais en tout cas, il y a déjà visiblement du travail qui a été fait.
Alors, l'une des questions, notamment, c'est la participation de la gauche ou d'une partie de la gauche. Et nous sommes en ligne avec la députée socialiste des Yvelines. Bonjour, Diana Badiop.
Bonjour.
Est-ce que votre parti, le PS, est prêt à faire partie de ce gouvernement Bayrou?
Non. Cette nomination est pour nous, encore une fois, un déni du vote des Françaises et des Français au soir du 7 juillet. Le président de la République refuse encore une fois de respecter la tradition républicaine de nommer un premier ministre qui soit issu du bloc, enfin en tout cas de la coalition qui arrivait en tête. On en prend acte. C'est un acte de fermeture pour nous. On avait posé un certain nombre de discussions, de propositions. Elles sont sur la table. Il choisit un de ses premiers soutiens. Donc, ce qui est clair, c'est que les socialistes ne participeront pas à un gouvernement de François Bayrou.
Et est-ce que votre parti serait prêt à voter la censure, comme l'annonce Mathilde Panot de la France Insoumise, qui brandit cette menace, elle, déjà?
Moi, je crois qu'avant de brandir la censure, qui pour nous reste un outil institutionnel pour dire notre mécontentement, et c'est pour ça que nous l'avons utilisé contre le gouvernement de Michel Barnier, qui a utilisé d'abord un 49-3 et qui n'a repris aucune de nos propositions, nous allons attendre de voir quelles sont les propositions qui pourraient être reprises par François Bayrou. Nous, ce que nous voulons, c'est contribuer à la stabilité et à l'apaisement du pays. On a beaucoup de propositions qui ont été défendues avec le nouveau Front populaire, ce sont les retraites, c'est le pouvoir d'achat, et surtout, moi, je dirais le reste à vivre. Nous voulons parler de services fiscaux ou encore de la préservation des services publics. Toutes ces questions, toutes ces propositions, nous allons les mettre sur la table et nous verrons bien si Premier ministre Bayrou et le gouvernement qu'il formera sera prêt à construire des compromis.
Et est-ce que vous n'auriez pas plus de chances de porter ces propositions-là en étant au gouvernement, justement ?
Nous ne pouvons pas, madame, avoir dit pendant plus de 7 ans que nous étions contre la politique menée par Emmanuel Macron et entrer dans un gouvernement qui est dirigé, je l'ai même entendu tout de suite à votre antenne, nous ne serons pas dans une cohabitation. Nous sommes là dans une co-responsabilité de la part de quelqu'un qui a été un des premiers soutiens et un des artisans de la Macronie. Donc nous, nous sommes dans l'opposition, c'est très clair. Et en tant que député de l'opposition, nous souhaitons qu'il y ait une discussion pour voir s'il y a des compromis, s'il y a des propositions, des concessions qui pourront être faites par le gouvernement de François Bayrou pour améliorer la vie des Françaises et des Français. C'est vraiment dans ce cadre-là que nous discuterons. Et si malheureusement il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de concession, de compromis qui est fait et que l'on reste sur le bilan, rien que le bilan, et on continue d'ignorer les résultats du 7 juillet, eh bien les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Merci beaucoup Diana Badiob d'avoir été en ligne avec nous, députée socialiste des Yvelines. Virginie Martin, vous êtes toujours en ligne avec nous. Une fois de plus donc, le nouveau Front Populaire qui dispose aujourd'hui du plus grand groupe à l'Assemblée ne parvient pas à imposer un Premier ministre issu de ses rangs. Quel avenir aujourd'hui pour la gauche, d'autant qu'on a vu là cette dernière semaine des positions qui n'étaient pas exactement les mêmes de la part des socialistes ou des écologistes et de la France insoumise?
C'est ça. Et plus va se rapprocher l'élection présidentielle, mais aussi les municipales de 2026, plus finalement ce bloc Nouveau Front Populaire peut se fissurer. Parce qu'évidemment, les ambitions à la fois locales, on a vu hein, quelques attaques de la France insoumise contre des maires socialistes, Montpellier, Marseille, Saint-Ouen, et on voit déjà des tests de sondage sur la présidentielle 2027 qui peuvent mettre Mélenchon d'un côté, Olivier Faure de l'autre, éventuellement François Hollande et j'en passe. Donc on voit bien de toute façon que ce NFP, à la fois sur le fond, bien sûr, mais aussi sur la forme et sur les personnages et leur trajectoire, il peut se fissurer. Donc est-ce que François Bayrou finalement va arriver à les fissurer via le Parti Socialiste? Il ne faut pas oublier que François Bayrou a voté François Hollande en 2012 contre Nicolas Sarkozy. Donc ça peut faire quelques complicités historiques. Est-ce que François Bayrou va arriver à capturer ici ou là deux, trois proies à gauche pour constituer son gouvernement, pour interrogation? Si c'est le cas, évidemment, ça va encore fragiliser le NFP. Mais après, le NFP peut aussi se souder, se ressouder face à ce macroniste aussi de la première heure qu'est quand même François Bayrou, que ça lui plaise ou pas.
Là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est ce qui se passe quand on voit les premières réactions. J'ai parlé tout à l'heure de celle de la France insoumise. La chef de file des écologistes menace aussi à l'instant de censurer François Bayrou s'il gardait la même politique et si Bruno Retailleau était maintenu au ministère de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction du parti qui a joué vraiment un rôle d'arbitre depuis les législatives de juillet dernier. C'est le Rassemblement national. Écoutez le président du parti, Jordan Bardella.
Il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche. Et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre, si tant est qu'ils entendent le message des urnes et le message des électeurs. Je représente avec Marine Le Pen une formation politique qui a recueilli 11 millions de voix, qui a le premier groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, nous nous souhaitons pouvoir faire connaître très rapidement à la fois nos lignes rouges et les inquiétudes qui sont celles des millions d'électeurs qui ont voté pour nous sur le pouvoir d'achat, les difficultés à boucler les fins de mois et évidemment le rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans le pays. La balle est désormais entre les mains de François Bayrou.
Pas de censure a priori, mais toujours les mêmes lignes rouges dont le Rassemblement national parle depuis maintenant des semaines et des mois, Valérie Gasse, avec un gouvernement qui, au regard de la personnalité du Premier ministre, se décale un tout petit peu vers le centre. Ça modifie la place et le rôle, l'influence du Rassemblement national?
Ça va se jouer avec ce que vont décider les socialistes. Néanmoins, François Bayrou, avec le Rassemblement national, part avec un a priori, on l'a entendu avec Jordan Bardella, plutôt favorable. En tout cas, on va lui laisser le temps. Il ne faut pas oublier que François Bayrou est un des hommes politiques qui combat le Rassemblement national. On ne peut pas l'accuser de partager quelconque idée avec le parti de Marine Le Pen, mais qui est son grand combat, c'est la proportionnelle, et qui veut une juste représentation des partis en fonction du poids qu'ils pèsent. Et qui a toujours été favorable au fait que, un, Marine Le Pen puisse se présenter à la présidentielle, et il a même été jusqu'à lui apporter son parrainage quand elle avait du mal à trouver des parrainages. Il a été toujours favorable à la banque de la démocratie, c'est-à-dire une banque qui pourrait permettre aux partis qui ont besoin de fonds pour se présenter, d'avoir accès à des fonds au moment où le Rassemblement National n'arrivait pas à se financer et a été, on s'en rappelle, chercher de l'argent en Russie. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'il n'y aura pas d'a priori défavorable de la part du RN. Il n'y a pas d'hostilité, il y a une espèce de respect, certainement. Et encore récemment, ils ont partagé des ennuis judiciaires. François Bayrou a eu une affaire sur les assistants parlementaires européens dont il est sorti relaxé. Marine Le Pen est en ce moment aussi sur un procès. Quand la réquisition d'inéligibilité contre Marine Le Pen a été faite, François Bayrou a dit non, là, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. L'inéligibilité de Marine Le Pen, ça serait pas une bonne chose. Donc voilà, on va voir comment ça va fonctionner. Ça peut neutraliser la menace RN pendant au moins un temps.
Ça, vous partagez cette analyse, Virginie Martin. Est-ce que là, pour l'instant, en tout cas, le Rassemblement National est un peu pas mis sur la touche, c'est excessif, mais enfin dispose d'une influence qui serait moins grande. D'autant plus qu'on avait aussi dit au moment de la motion de censure que le Rassemblement National n'avait pas forcément intérêt à multiplier ce genre d'opérations.
Bien sûr, mais je crois que tout vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, François Bayrou a été celui qui très récemment, et après l'historique a été rappelé, mais très récemment a dit « ce n'est pas comme cela qu'on rend la justice à propos de l'inéligibilité potentielle de Marine Le Pen ». Donc c'est très important, et dans cette nomination, je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la patte du RN, vous voyez ? Parce que pour les électorats du RN, la censure n'était pas une bonne nouvelle, et d'une certaine manière, François Bayrou n'est pas une bonne nouvelle pour les électorats du RN, quel qu'il soit. Ils sont assez peu compatibles avec François Bayrou. Mais néanmoins, peut-être que Bayrou peut sauver la tête de la potentielle candidate à la présidentielle 2027 de Marine Le Pen. Donc c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit, le jeu qu'a pu jouer, l'influence qu'a pu avoir le RN dans cette décision, parce qu'on le rappelait en début de sujet, Macron n'était pas extrêmement favorable à cette nomination, ne l'oublions pas, rapport au personnage un peu autoritaire et très indépendant et très autonome, et voire colérique, que peut être François Bayrou face à un Emmanuel Macron qui est complexe, on l'a déjà dit.
Marine Le Pen, puisqu'on en parle, elle réagit à l'instant, elle parle d'un prolongement du macronisme avec François Bayrou qui ne pourrait mener qu'à l'impasse. Voilà ce qu'elle dit, et je vous propose d'écouter aussi une réaction du parti Les Républicains qui perd donc ce poste de Premier ministre avec le départ de Michel Barnier. Marie-Christine Dalloz, elle est députée du Jura.
Il fallait sortir de la situation de chaos que la motion de censure avait provoquée au niveau politique, première chose. Deuxième chose, moi je regrette amèrement l'éviction de Michel Barnier. Et troisièmement, écoutez, c'est pas mon premier choix que j'aurais fait, François Bayrou, mais en responsabilité, eh bien, je serai attentive à ce qu'il proposera. Et j'attends de voir la composition du gouvernement, qui j'espère sera assez restreint dans le contexte. Chacun a joué sa carte en jouant du coude, je veux ci, je veux ça. Il y avait les lignes rouges d'un côté, les lignes rouges de l'autre côté. Et je crois que c'est ce qui a expliqué cette décision suffisamment longue.
Voilà, la députée LR du Jura. Est-ce que ce parti, Valérie Gasse, Les Républicains, va retrouver une influence qui serait plus proportionnelle à la place qu'il occupe au sein de l'Assemblée nationale ?
Certainement un petit peu. Après, il y a quand même... en fait, chez les LR, le symbole, ça va être Bruno Retailleau. Est-ce que Bruno Retailleau va rester dans le gouvernement ou pas ? Je dirais que vraisemblablement oui. En tout cas, il n'y a pas d'opposition chez Bayrou pour qu'il y reste. Donc on va voir un petit peu, mais c'est sûr qu'il y aura moins de ministres LR certainement dans le nouveau gouvernement qu'il n'y en avait dans le gouvernement de Michel Barnier. C'est de bonne guerre.
Valérie Gaz, chef du service politique, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Virginie Martin, politologue et professeure chercheuse à Kedge Business School, co-responsable du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Cette édition spéciale se termine. Et on a appris donc l'heure de la passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou. Ce sera tout à l'heure à Matignon, à 17h, heure de Paris.
L'épopée des musiques noires.
Fabuleux interprète du répertoire pop-funk, le chanteur américain Al Jarreau a réalisé à la fin de sa vie en 2016 son rêve de chanter les œuvres de Duke Ellington devant un imposant big band. Deux albums posthumes viennent de paraître, dont l'un restitue ses derniers instants de bonheur intense. Les témoins et acteurs de ses ultimes prestations nous racontent son épopée majestueuse.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 TU.
RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Dans son livre « Itinéraire d'un bâtard de la République », David Duquesne parle de l'échec, selon lui, de l'assimilation en France. Il est avec nous.
Les minorités qui se battaient pour justement obtenir des libertés sont devenues des minorités tyranniques qui empêchent toute liberté. C'est ça qui est absolument affolant, inquiétant et même dangereux.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.